Patrick Mundler est favorable à un éventuel contrat social entre le monde agricole et le reste de la société québécoise. Cependant, il ne croit pas que ce contrat doive viser l'autonomie alimentaire du Québec. Voici l'essentiel des propos que tenait le professeur en développement rural au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. D'abord, un peu de vocabulaire.
L'autosuffisance alimentaire, c'est lorsque on couvre la consommation par la production nationale ou locale, ça dépend de l'échelle, mais c'est la couverture de sa consommation par sa propre production. La sécurité alimentaire, c'est centré sur l'accès. C'est-à-dire avoir un accès physique, économique à une nourriture saine, suffisante et nutritive en tout moment. Et cela, ça peut se faire avec des produits importés comme avec des produits localement. Et puis la souveraineté alimentaire, c'est encore autre chose, c'est avoir le choix, c'est-à-dire le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire, c'est-à-dire avoir le choix aussi de décider de ses politiques agricoles, de ses politiques alimentaires, y compris éventuellement de protéger ses frontières des importations qui ne nous semblent pas légitimes ou si l'on veut protéger un secteur de production particulier. Donc ce sont trois mots différents et je trouve qu'on les a beaucoup entendus ces derniers temps, parfois de façon un peu confuse puisque les choses étaient mélangées. Je vais défendre une thèse au fond, je vais vous proposer une réflexion qui est en deux temps. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je pense qu'un nouveau contrat social entre l'agriculture québécoise et la population québécoise est une excellente idée, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense que ce n'est pas forcément dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais pour d'autres raisons. Je commence par quelques mots sur la COVID, puisque tout est parti de là finalement, on s'est inquiété de la fragilité de notre système alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID? Au fond, on n'a pas vraiment eu de pénurie notable. Il y a eu quelques ruptures d'approvisionnement tout à fait ponctuelles, mais les pénuries ont plus porté sur le papier toilette que sur l'alimentaire, si on regarde bien. Il y a eu des changements. Il y a eu un effondrement de la demande qui venait de la restauration, puisque les restaurants ont dû fermer, et une croissance de la demande dans les épiceries qui ont, au contraire, entre guillemets, profité de cette crise. Ça amène évidemment des transferts de certains produits vers d'autres, puisque les restaurants n'achètent pas exactement la même chose que les épiceries. Ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a une indiscutable inflation alimentaire et cette inflation alimentaire, elle défavorise toujours les mêmes, les plus précaires. L'importance du prix, il y a toute une population pour qui c'est effectivement quelque chose de très important. Il n'y a pas réellement eu d'obstacle à la circulation des marchandises. Une des craintes que nous avions, c'était que des producteurs exportateurs, des pays exportateurs, disent « nous, on garde nos céréales pour nous » et puis les autres se débrouillent. Non, ça ne s'est pas produit. Mais par contre, on a eu des obstacles à la circulation des personnes. Ça a aussi eu des conséquences sur notre agriculture. Et donc, tout ça a entraîné des questions légitimes et complexes sur la sécurité de nos approvisionnements alimentaires. Est-ce qu'au fond, on est capable de se nourrir? Et de là est venue la réflexion, pour se nourrir, faut être autosuffisant. C'est effectivement des questions légitimes, c'est des questions complexes qui appellent à mon sens un diagnostic un peu plus large de notre agriculture au regard de ses orientations et de ses pratiques. Et là, je vais aborder quelques points très rapidement. Premier point que je voudrais soulever, c'est que le Québec a largement de quoi nourrir sa population si on regarde ses ressources en terre. Le Québec dispose de 0,23 hectares de terres agricoles en moyenne par habitant. La moyenne mondiale est à 0,19. Chaque année, le Québec produit deux fois plus de calories que ce que consomme sa population. Pour vous montrer les inégalités mondiales, le Québec est dans le Canada. Le Canada est le deuxième pays au monde après l'Australie qui dispose de la plus grande surface agricole. C'est un joueur extrêmement important. Le Japon, il ne dispose que de 0,03 hectares par habitant. Le Japon, ce n'est pas vrai que demain, il va se nourrir en disant « on va chercher notre autosuffisance alimentaire ». Les Japonais ont une politique agricole extrêmement ambitieuse et protectionniste pour protéger leur petite agriculture, mais elle ne suffit pas pour nourrir l'ensemble de la population japonaise. C'est encore plus vrai pour les Émirats arabes unis, etc. Donc, première leçon, on a largement de quoi se nourrir. Le deuxième point que je veux soulever, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, on a une partie importante, mais extrêmement importante de l'agriculture québécoise, qui produit au fond des cultures destinées à nourrir les animaux. Globalement, disons qu'on a 2 millions d'hectares, allez, je fais les choses de façon un peu grossière. Le maïs et le soya occupent près de 75% des superficies en grains du Québec et plus de 80% des grains qu'on produit sont utilisés pour l'alimentation animale. 12% de la production de maïs sert même à fabriquer de l'essence. Et donc, lorsqu'on regarde la réalité de notre agriculture aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle est majoritairement tournée vers la production d'aliments pour les animaux et pas tellement pour qu'ils soient consommés directement par les êtres humains. On a beaucoup parlé de notre déficit en légumes. Là aussi, il faut regarder les choses, les mettre en perspective. Lorsqu'on regarde le taux d'approvisionnement pour divers légumes, on s'aperçoit qu'en fait, on produit plus de 100% de ce qu'on consomme sur beaucoup de légumes. Betteraves, rutabaga, choux, pois, oignons, échalotes, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce taux d'auto-approvisionnement? Ça veut dire que la production québécoise est supérieure à la consommation québécoise à plus de 100%. Mais pourtant, on en importe. Pourquoi on en importe? Parce qu'on en exporte. Et pourquoi on en exporte et qu'on en importe en même temps? Tout simplement parce qu'on a des hivers longs, on a une production saisonnière. À un moment donné, elle arrive sur les tablettes, il en sort du pays, il en sort de la province, mais il en rentrera à d'autres moments de l'année. Par contre, le blé pour l'alimentation humaine, lui, par contre, on est très déficitaire. On produit aux alentours de 10% du blé que l'on consomme dans nos pains et nos pâtes. Mon quatrième point, c'est qu'on a des filières exportatrices. Il y a des filières qui sont organisées au Québec pour exporter. Les filières qui exportent le plus par rapport à leur production, vous ne serez pas étonnés, on produit 13 fois plus de sirop d'érable que ce qu'on va en consommer au Québec. On produit de la canneberge, on produit des porcs, du bleuet, des veaux, etc. Le premier poste de notre balance extérieure exportatrice, c'est le porc. On produit 4 fois plus de porc que ce qu'on consomme au Québec. Sur les 8,6 milliards de dollars d'exportation, ça représente presque 20%, le cinquième. Et en valeur, qu'est-ce que nous importons? On importe des boissons, des alcools, on importe des fruits, du cacao, du chocolat, donc des choses qu'on aura de toute façon quelques difficultés à produire. Le paradoxe, c'est qu'on importe beaucoup de cacao pour réexporter du chocolat, parce qu'après notre port, notre deuxième poste exportateur au Québec, c'est le chocolat. Donc, on a une balance commerciale qui est excédentaire au Québec d'à peu près 1,2 milliard de dollars. Le cinquième point, c'est qu'on s'intéresse beaucoup et on s'interroge beaucoup sur l'autosuffisance des produits. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que si on s'intéresse à l'autosuffisance, c'est aussi une question de ressources pour produire. La terre, j'en ai parlé. On a une loi de protection du territoire agricole qui protège les surfaces. On est riche en terre au Québec et encore plus à l'échelle du Canada quand on regarde le Canada dans son ensemble. Donc, on a une loi qui protège les surfaces, mais on n'a pas grand-chose aujourd'hui pour protéger la qualité des sols. On a des graves problèmes d'érosion aujourd'hui à cause de certaines pratiques, des couvertures à nu, enfin, tout un tas de choses qui pourraient être développées plus longuement. Aujourd'hui, là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Si on regarde maintenant le travail, on importe, entre guillemets, chaque année 16 000 travailleurs temporaires sous statut spécial pour assurer le travail de récolte dans les champs. Si on regarde les engrais, les produits phytosanitaires, là, la situation est assez contrastée. Au Canada, là, je ne parle pas du Québec, on a les plus grandes réserves de potasse du monde. Mais en revanche, on n'a pas du tout d'industrie canadienne pour les phytosanitaires. Ces achats de phytosanitaires, principalement aux États-Unis, coûte au Canada, dans sa balance commerciale, plus d'un milliard de dollars de déficit. Et puis, c'est la même chose pour la machinerie. On a un déficit commercial d'environ 2,6 milliards de dollars pour la machinerie. Donc, regardez, 2,6 milliards de déficit commercial de la machinerie pour le Canada, c'est le double de l'excédent commercial dont j'ai parlé tout à l'heure, mais seulement pour le Québec. Hein. Donc, vous voyez, on a d'importants déficits aussi sur d'autres ressources qui sont nécessaires pour produire. Et quand on parle d'autosuffisance, je pense que ça mérite de le rappeler. Mes conclusions, j'ai trois points que je voulais soulever, que j'ai appelé des questions pour réfléchir ensemble, parce que, encore une fois, je n'ai pas des réponses toutes faites. Je voulais juste souligner certains des problèmes qui me semblent devoir être soulignés. D'abord, quand on parle de l'autosuffisance du Québec, on oublie un petit peu que, jusqu'à pour le moment encore, en tout cas, nous sommes au Canada et donc que les frontières, lorsqu'on parle des échanges extérieurs, sont canadiennes et non provinciales. Ça signifie que lorsqu'un pays dit « oui, moi je vais garder mon blé pour mes citoyens », on ne risque absolument rien parce qu'en réalité, le Canada est extrêmement riche en blé, en légumineuses, les prairies sont un des plus gros exportateurs mondiaux là-dessus. Donc, c'est mon deuxième point, le Canada dispose d'une immense base foncière qui le met à l'abri. Et j'irai même plus loin, il y a des pays moins bien lotis en terre qui auront besoin des produits agricoles canadiens ou d'autres pays qui ont cette même base foncière. J'ai parlé tout à l'heure du Japon, etc. Et donc, ma troisième remarque ici, c'est pourquoi focaliser notre dépendance à l'importation sur certains produits et non celle concernant les travailleurs, les machines ou les produits sanitaires? Pour être un peu provocateur, on pourrait dire pourquoi absolument continuer à produire plus de tomates et de poivrons au Québec si on n'est pas capable de les ramasser sans faire appel à des travailleurs qui viendraient du Mexique ou du Guatemala? Donc, c'est pour ça que la question de l'autosuffisance alimentaire me semble ni être un objectif souhaitable, ni même être un objectif réaliste. Mon deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des questions, je trouve, qui sont très intéressantes à se poser et qui, à l'occasion de ce dialogue, peuvent être posées. J'en ai mis quatre ici. La première, c'est est-ce qu'il est judicieux au Québec de consacrer plus de 80% de nos surfaces arables à des productions qui sont au fond destinées à l'alimentation animale et aux biocarburants? Ma deuxième question, c'est quel autre type de dépendance crée-t-on lorsque la santé économique d'une filière dépend des exportations? La Chine s'apprête à scruter les importations de porc canadien à la loupe. On connaît tous les relations un peu difficiles qu'on a avec la Chine, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, c'est des questions géopolitiques. Mais le secteur est extrêmement dépendant de ces exportations. Ma troisième remarque, c'est qu'on est en compétition avec le reste du monde. On est ce qu'on appelle sur des marchés de masse. Et donc, la compétitivité, notre compétitivité, va dépendre des coûts du capital, du travail et des ressources naturelles. Et donc, ça amène toujours à rechercher des économies d'échelle. Et donc, je résume ça autour de quatre termes. La concentration, les entreprises sont obligées de grossir sans cesse. L'intensification, on intensifie les pratiques souvent au détriment de l'équilibre naturel. La spécialisation, puisqu'évidemment, on a des économies d'échelle, plus on est spécialisé. Et puis la financiarisation qui est arrivée avec les terres qui deviennent de plus en plus coûteuses et les problèmes de relève qu'on soulève. Et puis cette course continue, elle a de graves conséquences sociales et environnementales. Mon troisième point, c'est que je pense qu'un nouveau contrat social pour une agriculture qui renoue avec ses territoires serait évidemment un excellent objectif, en misant sur des systèmes alimentaires territorialisés et durables. Alors pourquoi je dis ça? J'ai trois mots là-dedans que je veux rapidement définir. Des systèmes, parce que les avantages sociaux, environnementaux et économiques d'une agriculture qui ménage et aménage le territoire sont reliés, c'est systémique. Et donc, il y a les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques d'une telle agriculture sont quand même bien documentés. Territorialisé pour valoriser les initiatives collectives et locales, pour valoriser la proximité sociale et géographique, pour créer de la valeur dans les territoires, et durable en misant sur une transition agroécologique des modes de production agricole et agroalimentaire qui préservent l'environnement, le climat, les sols, l'eau, la biodiversité et qui assurent un juste revenu aux agriculteurs.
Ici Lionel Levac, il y a un véritable débat quant à l'opportunité d'adopter une stratégie d'autonomie alimentaire au Québec et sur des questions comme le maintien et le développement de productions agricoles destinées à l'exportation. Un seul exemple, dans le même département qui est celui de Patrick Mundler, son collègue, le professeur Maurice Doyon, rappelle que le produit intérieur brut du Québec, une façon d'évaluer le niveau de vie général, dépend à 42% des exportations, et donc que si nous n'avions pas les exportations, nous n'aurions pas le même niveau de vie. Au revoir.